jour J, Flavie Flamand sur RTL.
L'actualité faite de jour J, on vous les raconte chaque soir sur RTL. Et ce soir, justement, vous allez découvrir une enquête édifiante qui révèle que de hauts fonctionnaires et journalistes que vous connaissez parfois ont été des espions pour l'URSS. Merci d'être fidèle à jour J que vous écoutez sur RTL ou en podcast. Ils officiaient à la télévision, à la radio, à la tête des plus grands titres de la presse écrite. Ils murmuraient à l'oreille des présidents, des ministres. Ils étaient hauts fonctionnaires, bien sous tout rapport. Et pourtant, pour de l'argent, par conviction, ils auront accepté de trahir la France et de céder aux sirènes des services secrets soviétiques. Notre invité a eu accès à des documents déclassifiés. Son enquête est ce soir dans Jour J. Vincent Jauvert, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes grand reporter, vous êtes ancien chef du service étranger de l'Obs, vous êtes spécialiste des affaires de renseignement, vous avez déjà mené plusieurs enquêtes. Et cet ouvrage, qui vient de paraître aux éditions du Seuil, s'intitule « À la solde de Moscou, il veut tout dire ». Dans cette enquête, en fait, vous révélez la trahison dans les années 60, 70, 80, en tout cas ces trois décennies, de personnalités politiques, de journalistes, certains que l'on connaît, on en parlera, de hauts fonctionnaires. Ils étaient en fait des espions, et c'est le titre de votre ouvrage, à la solde de l'Est, en vendant des infos, et notamment à la STB, les services secrets tchécoslovaques. Comment est-ce que vous avez retrouvé tous ces noms, et qu'est-ce qui vous a mis finalement sur la piste de cette enquête?
J'ai eu accès, comme n'importe qui peut le faire, aux archives de la STB à Prague, donc le service secret tchécoslovaque à Prague. La Tchécoslovaquie est le seul pays au monde à avoir ouvert ses archives des services de renseignement extérieur de sa création à la fin, c'est-à-dire à la chute du mur de Berlin en 1989, le seul. Et donc ce sont des archives exceptionnel, extraordinaire, puisqu'on y trouve non seulement le nom de leurs agents à l'Ouest, mais également le fonctionnement des services secrets au jour le jour, puisque tous les rapports sont là, donc ce sont des milliers de pages, et on suit l'activité des agents secrets qui recrutent donc les espions auprès des journalistes, auprès des hommes politiques français, et on voit comment ils procèdent, comment ils avancent pour séduire quelqu'un différemment selon les personnalités, ce qu'ils cherchent, comment ils évoluent. C'est extraordinaire. Et comment j'ai eu accès à ça? C'est assez simple. Un jour, j'ai lu un article dans une revue spécialisée d'un historien tchèque, Jan Kura, un jeune homme, qui travaillait sur un personnage que vous connaissez, mais peut-être que les auditeurs ont oublié, qui s'appelle Mehdi Ben Barka. C'était un opposant au roi du Maroc dans les années 60 qui avait été enlevé et tué en France. Et cet historien travaillait sur cet homme-là qui était aussi un agent de la STB. Et quand il a été enlevé, il raconte dans son article que plusieurs journalistes français ont participé à des opérations de désinformation pour dire que les Français étaient impliqués, les services secrets français étaient impliqués dans la mort de cet homme-là. Et il y avait des noms de gens, leur nom de code, et les journaux, le Canard Enchaîné, le Nouvel Observateur. Et là, je me suis dit, c'est incroyable ça, le Canard Enchaîné, le Nouvel Observateur, qui participait à des opérations volontairement. Et voilà comment ça a commencé, j'ai vu cet historien, il m'a expliqué comment fonctionnaient les archives, et j'y ai plongé avec bonheur, avec bien sûr une traductrice qui m'a beaucoup aidé, Sarah Simidova.
Donc c'était sur place, en fait? Vous vous êtes rendu à Prague? Vous avez passé combien de temps à Prague, nez dans les archives?
Pas énormément de temps, parce qu'il donne... si on veut, des clés USB.
Ah, ok, d'accord. Oui, donc c'est moderne encore. Enfin, je veux dire, ça vit avec son temps, quoi.
Presque tout a été numérisé.
Mais c'est dingue quand même de se dire qu'on peut avoir accès à tout ça. C'est-à-dire que moi-même, je peux. D'accord, ok.
Sans problème. Alors peut-être qu'il faut prouver qu'on a un intérêt particulier, mais enfin, non.
Oui. Ce qui rend vos informations vérifiables. D'ailleurs, on les voit, les documents
Je les ai tous, oui, bien sûr. Ah oui, il n'y a pas. Et alors, c'est d'autant plus juste que la Tchéquie et la Tchécoslovaquie a été dirigée, pour les plus anciens, tout de suite par quelqu'un qui était un grand démocrate, Václav Havel, alors que les autres pays de l'Est, eux, avaient gardé un peu de communistes. Et donc, les archives sont un peu sujettes à caution lorsqu'elles sont un peu ouvertes.
Là, beaucoup moins.
Là, aucun doute. aucun doute sur leur propreté.
Et ben alors justement, ce que vous appelez la propreté de ces archives, c'est au cœur de votre ouvrage et c'est ce qui porte aussi hein, des accusations sur lesquelles on reviendra. Je voudrais savoir, et qu'on plante le décor aussi pour nos auditeurs, pourquoi on se méfiait assez peu à l'époque des services secrets tchécoslovaques, la STB. Pourquoi est-ce que ça n'était pas finalement, comme le KGB par exemple, les services secrets dans le viseur de la DST française?
Oh si, ils étaient. Il était pareil.
On s'en méfiait moins, non, ils avançaient plus masqués.
Presque plus. J'ai parlé à des anciens de la DST de l'époque qui disaient les Tchèques, c'était l'élite. Et justement, ils étaient l'élite et ils arrivaient à passer entre les gouttes. Mais on n'a pas encore accès aux archives du KGB.
Ouais.
On imagine un peu ce que ça peut donner, parce que la STB, c'est une petite agence par rapport au KGB.
À la solde du KGB, on est d'accord.
Totalement
à la solde.
Tout passait par le KGB. Il y avait des soi-disant conseillers qui étaient en fait les vrais patrons. Et chaque fois qu'ils voulaient recruter quelqu'un, chaque fois qu'ils avançaient vers quelqu'un, ils demandaient leur avis au KGB. Le KGB leur disait, non, celui-là, vous n'y touchez pas, on l'a déjà, ou on veut le recruter nous-mêmes. Donc, tous les rapports des services tchécoslovaques allaient à Moscou.
Dans ce fameux bloc de l'Est, est-ce que certains services secrets se voyaient affiliés à un domaine particulier pour servir le KGB ?
Oui, une sorte de Comecon, comme on dit, du renseignement, d'ensemble de répartition du renseignement. À partir des années 60, la STB était plutôt chargée de la presse et de la désinformation.
D'accord.
Pour une raison assez simple, c'est qu'il y avait à la tête du service de désinformation quelqu'un qui est devenu un personnage très important, Monsieur Bittmann, qui savait très bien faire, qui a mené de grandes opérations. Et donc, c'est eux qui faisaient ces opérations-là, à la demande du KGB.
Votre livre, À la solde de Moscou, il contient un certain nombre d'accusations, toutes documentées, on le dira tout au long de cette émission. Votre éditeur et vous-même, de façon générale, vous faites aujourd'hui l'objet de poursuites ou il ne s'est encore rien passé depuis la sortie de votre livre ?
Aucune poursuite.
D'accord. Alors, comment les services... On pourrait penser le contraire quand même. Hein.
Ah bah, on va en parler. Il y a une personne qui nous a menacé d'eux, mais on n'a pas.
Et pour l'instant, ça n'a pas bougé.
On n'a pas
reçu. Alors, comment les services secrets tchécoslovaques recrutaient-ils les espions français, qui sont ceux dont les noms apparaissent sur ces documents longtemps classés top secret ? Vos révélations, justement, c'est tout de suite dans Jour J.
Jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
À la solde de Moscou, c'est une enquête passionnante qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Elle est signée le grand reporter et ancien chef du service étranger de l'Obs, Vincent Jauvert. Il y est donc question, Vincent, de ces Français influents dans leur domaine. Il y avait des hauts fonctionnaires, il y avait des journalistes, il y avait des politiques qui, depuis leur pays, donc depuis la France, travaillaient aussi pour les services secrets du bloc de l'Est, donc à la solde du KGB et de Moscou. Ce qui veut dire en fait que sur notre territoire, entre les années 60, ça a toujours existé, vous allez me dire, mais en tout cas entre les années 60 et les années 90, il y avait des espions à la solde du bloc de l'Est pendant la guerre froide.
Oui, bien sûr, il y en a toujours.
Mais bah voilà, c'est ça, on reviendra sur aujourd'hui.
Oui, bien sûr.
Ils se cachaient où alors
Dans les ambassades. Alors, il y a plusieurs types d'espions.
Ouais.
Il y a celui qui est sous immunité diplomatique, c'est-à-dire que c'est un diplomate.
Un intouchable.
Il peut juste être déclaré persona non grata et être viré de France en 48 heures. Et puis, il y a ce qu'on appelle les illégaux. Enfin, il y en a d'autres, il y a plus que ça, mais ceux qui ne sont pas déclarés comme espions, qui sont déclarés comme chefs d'entreprise, journalistes, étrangers, et qui sont en réalité des officiers de renseignement. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les illégaux, c'est-à-dire ceux qui arrivent sous fausse identité française, une identité empruntée à quelqu'un qui est mort très jeune, qui est né à peu près au même moment que la personne qui va prendre cette identité, et qui s'installe en France, faisant croire qu'il est français. Il a été formé pour apprendre la langue, pour apprendre le pays, un peu comme la série The Americans, la série des Américains. Il y en avait sur le sol français, il y en a toujours sur le sol français, notamment des Russes. Et cet ensemble-là, donc varié, hein, donc des diplomates qui ont pignon sur rue, aux illégaux qui sont totalement dans l'illégalité, il y a tout un panel de gens qui font du renseignement politique, militaire, économique, et qui donnent au pays, en l'espèce, en ce qui nous concerne, la Tchéquie et surtout Moscou, un paysage secrets, ils vont derrière les coulisses, ils aident à avancer pour les Russes, pour qu'ils comprennent mieux comment ça fonctionne.
Mais alors, justement, ils sont en activité sur le territoire français. Vous l'avez précisé il y a un instant, la STB, les services secrets, donc tchécoslovaques, avaient cette spécialité, je dirais, des personnalités des médias ou des politiques influents. Quel était le profil du parfait espion français? Parce qu'il faut bien le repérer quand même dans les médias. Il faut bien sentir qu'il y en a un qui va basculer, qui va pouvoir succomber finalement peut-être au charme de l'espionnage, je ne sais pas.
C'est une très bonne question parce qu'ils passent leur temps à s'interroger. Mmh. On voit des rapports entre eux, entre ceux qui sont à Paris, ceux qui sont à Prague. Alors lui, qu'est-ce qu'il en pense? Comment on peut le retourner? La plupart du temps, c'est qu'il a des problèmes d'argent. Donc ils cherchent, ils se renseignent sur ceux qui ont des problèmes d'argent, ceux qui sont d'abord idéologiquement pas loin, proches.
Parce que, donc ils peuvent le faire aussi par conviction.
Ça commence par conviction et ça se termine souvent très vite pour de l'argent, tout simplement. Pour ceux qui deviennent agents, c'est-à-dire ceux qui vont vraiment jusqu'au bout, qui sont clandestins, qui acceptent des réunions clandestines et qui acceptent de travailler vraiment à la demande de leur officier traitant, j'en connais pas qui sont allés jusqu'au bout sans argent. Mmh. Il y a quelques cas dont on parlera, notamment Claude Estier, un socialiste très connu dans les années 80, qui, lui, ne faisait pas pour de l'argent. Mmh. Voilà, mais c'est très rare.
Donc, l'argent, donc ça veut dire aussi qu'il repère les failles, finalement, chez ceux qu'ils veulent retourner. Comment est-ce qu'ils vont approcher ces Français qui ont de l'influence, hein, parce que là, on parle de parfois directeurs de la rédaction de grands magazines, de rédaction de radio, de la rédaction de TF1, enfin bon, c'est pas rien quand même. Comment est-ce qu'on va les approcher, ces gens-là?
Oh ben, c'est tout simple, on est diplomate. On est diplomate et on peut être soi-disant attaché de presse.
D'accord.
De l'ambassade.
D'accord.
Donc on déjeune, on invite à déjeuner.
Donc admettons par exemple que moi je sois quelqu'un dans le viseur des services secrets et que je puisse avoir de l'influence. Ouais. Je vais un jour recevoir un coup de fil d'un diplomate qui me dit je vais vous inviter à déjeuner. Moi j'ai pensé qu'il me drague tout de suite. Ou je vais préférer aller déjeuner avec mon équipe.
Il le saura, donc il enverra une femme.
Ah d'accord.
Ou il enverra quelqu'un qui est vraiment strict. Mais surtout, vous serez présenté à lui par quelqu'un d'autre d'abord.
Ah d'accord, donc ça veut dire que l'approche elle est subtile.
Mais c'est tout un travail très, très difficile. Quelqu'un d'autre va vous présenter Monsieur X, qui a très envie de vous rencontrer parce qu'il est, voilà, il est attaché de presse à l'ambassade de Tchécoslovaquie et il pense qu'il peut vraiment vous apprendre beaucoup de choses. Vous vous dites, tiens, pourquoi pas, dans 3 jours j'ai rien à faire, je vais déjeuner avec lui. Et là, il passe son temps à vous interroger de manière assez subtile.
Donc il va s'intéresser à moi.
Il va s'intéresser à vous, ce qu'on aime toujours.
Voilà, il va me donner de l'importance.
Il va vous donner de l'importance et il va commencer à cerner votre personnalité, à cerner votre famille, vos hobbies. Est-ce que vous avez une maison de campagne? Est-ce qu'elle a le toit qui fuit ou pas? Parce que du coup, ça coûte cher. Est-ce que vous avez des relations intimes straight ou pas straight? Est-ce que vous aimez certaines... Pas la première fois, mais la deuxième, la troisième, la quatrième.
Il va rentrer finalement dans ma vie.
Il va rentrer dans votre vie.
Et là, il va faire une sorte de fiche finalement.
Et
de
il va essayer, la première chose, il va essayer de vous rencontrer toutes les 6 semaines. Il faut, pour tenir comme un poisson, vous savez, pour faire remonter doucement le poisson, il faut le ferrer. Et pour le ferrer, il faut que la personne accepte de rencontrer régulièrement. C'est un premier indice. Quand quelqu'un vous dit, un diplomate étranger vous dit, voyons-nous régulièrement, ding, ça doit faire ring a bell, comme on dit en anglais. Si vous acceptez, ça veut dire, tiens, voilà, celui-là, il est peut-être, ou celle-là, il est peut-être intéressé.
Votre enquête, Vincent Jauvert, est chapitrée par pseudo. Il y a Lino, il y a Eman, il y a Bena, il y a Zamek, il y a Pipa, il y a Samo, il y en a d'autres. Et puis, il y a un certain Franck, qui est le plus illustre de tous, toujours en vie. Son nom n'est pas inconnu du grand public. Mais quoique, pour les plus jeunes, quand même, ils peuvent l'ignorer. Il s'appelle Gérard Carrérou, c'est l'ancien patron du service politique d'Europe 1, directeur de l'information de TF1. Justement, écoutez, c'était en 1995.
Jean-Marie Le Pen, Brice Lalonde, 7 sur 7, présenté par Gérard Carrérou, dimanche 18h55, en direct sur TF1.
Gérard Carrérou, 82 ans aujourd'hui, qui officie désormais sur CNews et qui nie tout ce qu'il y a dans votre livre en bloc, on l'entendra dans un instant. Alors justement, Vincent Jauvert, qu'avez-vous trouvé et que révélez-vous? C'est tout de suite et c'est dans Jour J.
Tout cela est totalement faux. Tout cela, effectivement, consiste à dire je suis à la solde. Non mais vous rendez compte, à la solde de Moscou. La solde, c'est quand on est payé, hein. Ça veut dire que non seulement j'étais un informateur, un agent de service étranger, en l'occurrence tchèque ou tchécoslovaque, tchèque, et non seulement, mais je touchais de l'argent. Non, mais tout ça est absolument fou. Et vous imaginez quelle atteinte à mon honneur personnel. Je suis journaliste depuis 58 ans. J'ai été dans des grandes rédactions que j'ai dirigées, vous avez rappelé Europe et TF1, il y en a eu d'autres.
Le grand reporter Vincent Jauvert est notre invité ce soir à l'occasion de la sortie de sa nouvelle enquête qui vient de paraître aux éditions du Seuil, à la solde de Moscou. Celui que l'on vient d'entendre, c'est Gérard Carrérou. Évidemment, vous l'avez reconnu, Vincent Jauvert. Vous n'êtes pas surpris par l'indignation dont il fait démonstration, puisque effectivement, Gérard Carrérou, votre livre le met en accusation. Les documents classés auxquels vous avez eu donc accès le mettent en accusation. Il se dit indigné sur CNews. Je voudrais que l'on explique à nos auditeurs ce que vous avez découvert lors de votre enquête.
Alors, à la différence de ce que M. Carrérou dit à CNews, je dis qu'il n'est pas un agent et je dis qu'il n'est pas rémunéré. C'est peut-être la raison pour laquelle il n'a toujours pas déposé plainte. Et évidemment qu'il n'est pas aujourd'hui un espion, puisqu'il dit qu'il est un espion. Les dates sont très précises, c'est de 1980 à 85. Voilà, c'était un autre monde, une autre période. Il était beaucoup plus jeune, beaucoup plus alerte que maintenant. Et peut-être beaucoup moins diffamatoire, puisqu'il m'a traité, dans la suite de cet entretien que vous avez diffusé, il me traite de gestapiste. Monsieur Carrérou voyait... on parlait tout à l'heure de diplomate. Il voyait un diplomate tchécoslovaque qui se présentait comme travaillant à la mission de presse de l'ambassade de Tchécoslovaquie. Il l'a vu 37 fois en 4 ans. Il le voyait toutes les 6 semaines, ce que je disais tout à l'heure. Et quand je lui demandais, Monsieur Carrérou, comment se fait-il que vous voyiez toutes les 6 semaines un modeste employé de l'ambassade tchécoslovaque, petit pays à l'époque, sous la botte totale de l'Union soviétique, il dit, par amitié, parce que, voilà, je voyais beaucoup de monde. Mais pourquoi lui? Et pourquoi, un jour, vous avez décidé de ne plus le voir du tout? Là, il était un peu plus flou, et il me dit à un moment, ben voilà, c'est faux. Mais moi, je lui dis, écoutez, quand quelqu'un d'autre a cherché à vous recruter dans les années 60 et que ça n'a pas marché, ils l'ont dit. Quand pour d'autres journalistes que je cite dans mon livre, notamment du Nouvel Observateur, la STB cherche à les recruter et que ça ne marche pas, la STB le dit. Et vous, ils disent le contraire. Un jour, et c'est le moment où M. Carrérou, d'après les documents de la STB, bascule, clairement, ils se sont mis d'accord, lorsqu'il est recruté comme, non pas comme agent, mais comme personne de confiance de la STB, ils se mettent d'accord sur des réunions de remplacement au cas où il y a un problème. Si ils ont rendez-vous un jour et qu'une des deux personnes, au bout d'un quart d'heure, ne vient pas, on se retrouve le lendemain à la même heure, au même endroit. Ça, c'est typique des espions entre eux. Un jour, l'officier traitant fait exprès, sans le dire à M. Carrérou, de ne pas venir. Et M. Carrérou vient le lendemain, à la même heure, au même endroit. Voilà. Encore une fois, je répète, il n'était pas un agent et il n'était pas rémunéré. Il recevait des cadeaux.
Alors voilà, c'est ça. C'est ça. Ce qui est important, c'est qu'il le dit, je ne touchais pas d'argent. On dit que j'étais payé, mais je n'étais pas payé. En fait, il recevait donc notamment un vase.
Ce qui était typique des services tchèques, parce que c'est une des choses qu'on aime bien de la bohème, c'est-à-dire leurs vases et leurs cristaux. Donc, il recevait pas mal. Il y a des factures de vases, de services en cristal. Et je pense que ce n'est pas la motivation première de Gérard Carrérou à l'époque. À l'époque, c'était quelqu'un qui était encore en progression. Il était flatté. Il était très flatté. Vous savez, les officiers traitants, lorsqu'on leur donne des informations, ils vous disent, c'est allé jusqu'au niveau, jusqu'en haut, jusqu'au Kremlin. Et vous jouez un rôle dans le maintien de la paix. Mmh. Les informations que vous donnez sont importantes pour le maintien de la paix. Et vous êtes flatté. Et je crois que M. Carrérou, je peux me tromper, mais a un égo assez important. Et je pense que ça flattait son égo.
Il était proche, très proche de la gauche au pouvoir. Hein, très Rigovois, Mitterrand, oui. Rocard. Il aurait, lors de ses discussions avec Daniel donc Liteki, au restaurant chez Edgar, lors de ses déjeuners, il aurait évoqué dès 1984 oui. le cancer de François Mitterrand, qui sera révélé sept ans plus tard. Enfin,
oui. Il le nie pas. Il le dit. Il dit oui, mais alors...
Alors, oui. Voilà, il dit qu'il est hospitalisé, il dit qu'il a beaucoup maigri, que c'est un cancer, et là, donc, la rumeur du cancer de l'estomac.
Oui, du bas-ventre.
Oui. Oui, c'est ça.
Du bas-ventre. Donc, ils n'étaient pas très loin. Oui, alors, il dit que c'était de notoriété publique. Ah bon, moi, je ne pense pas que c'est de notoriété publique. Et quand je lui dis, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit sur Europe ? Ah, ben, vous savez, à l'époque, on n'en parlait pas. Alors, pourquoi vous en avez parlé aux représentants d'un pays ennemi ? À l'époque, on était ennemis. Ah, ben, moi, je suis pour la liberté totale de parole et j'aime pas les secrets. Mais, voilà, j'ai un peu bizarre. Tout
ça. Bon, il faut préciser que vous l'avez rencontré, vous le dites dans votre livre.
Bien sûr, hein,
parce que
j'ai
vous
fait
avez
travail,
vu ses noms, mais vous avez fait votre travail d'investigation. Et vous êtes allé à sa rencontre,
dans son salon.
Vous avez vu s'il y avait un vase
Non, je n'ai pas posé la question.
Non, pardon. Non, mais c'est intéressant.
Je crois savoir que sa femme ne va pas très bien, et donc je ne voulais pas être intrusif.
Très bien. En tout cas, je voudrais encore une fois qu'on l'écoute. Voici comment il se défend.
La seule raison, j'ai rencontré un jour un diplomate dans une ambassade. Ce diplomate était sympathique. On a échangé nos cartes. Il m'a dit, on peut déjeuner ensemble. En 4 ans, alors évidemment, la Gestapo du monsieur en question qui a fait le bouquin a fait son travail et on me reproche, je ne sais.
Portez plainte ?
Alors, je vais porter plainte.
Vous avez porté plainte ?
Je vais porter plainte, mais si vous voulez, c'est une question d'honneur et c'est une question de vérité.
Alors, donc, vous me dites qu'aujourd'hui, il n'a pas porté plainte. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut se produire?
Ah oui, ça peut se produire n'importe quand, comme moi je peux aussi porter plainte pour injure publique, vous voyez, sur du Gestapo, c'est pas terrible quand même.
On va se retrouver dans un instant, Vincent Jauvert, si vous le voulez bien, parce que, bon, on a parlé de Gérard Carrérou, mais il en est d'autres aussi, journalistes français qui seraient devenus des espions, et puis il y a aussi des politiques, de hauts fonctionnaires, ce sera avec vous dans un instant, c'est le fruit de votre enquête, à tout de suite sur RTL.
Jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être avec nous, fidèle à Jour J, Vincent Jauvert et notre invité ce soir, Gérard Carrérou, dont on vient de parler, n'est pas le seul dont le nom apparaît dans les archives du STB, les services secrets tchécoslovaques qui nourrissaient le KGB pendant la guerre froide. Moi, franchement, ce petit livret au centre, avec justement tous ces documents auxquels vous avez eu accès, ces faux passeports, ces rapports qui ont été rédigés par les services secrets, je trouve ça absolument fascinant et j'imagine le travail passionnant que ça a dû être pour vous de mener l'enquête sur ce sujet. C'est-à-dire qu'on a les mains, non seulement dans l'histoire, mais on a les mains dans l'histoire secrète, oui, entre les nations et en pleine guerre froide.
Oui, j'avais fait la même chose dans les archives de Kennedy sur De Gaulle. Au bout d'un moment, on a l'impression de vivre à cette époque-là.
C'est ça, c'est que vous êtes immergé finalement.
Ah, totalement.
Ouais.
Et alors, il fallait faire traduire, donc ça prenait du temps. Et je ne lis pas le tchèque, alors que je lisais l'anglais pour les archives Kennedy.
Alors, vous deviez attendre avec énormément de.
Oui, alors maintenant, il y a des outils que j'ai découvert, des outils informatiques qui permettent de le faire plus rapidement.
Ouais.
Donc, ça a fait gagner beaucoup de temps. Mais c'est vrai que quand on voit des rapports signés, quand on voit la main qui écrit, il y a des rapports de journalistes qui ont été. On va en parler, notamment d'un journaliste de l'Obs qui a fait des choses très importantes. Des rapports manuscrits, ouais. Très longs. C'est incroyable. Que personne n'a jamais vu, à part l'officier traitant. Ses enfants, sa femme, personne ne les connaissait. Et il disait des choses incroyables sur des gens.
Ah bah justement, on y va. Parce qu'il y a d'autres journalistes français qui seraient devenus donc des espions et qui auraient usé de leur plume pour influencer l'opinion, pour déformer l'actualité. Parmi eux, Pipa. Pipa, ça veut dire robinet. C'est Jean Clémentin qui travaille au Canard Enchaîné. Et Albert-Paul Lantin, donc Eman, lui du Nouvel Obs. Albert-Paul Lantin, c'est justement celui qui vous a le plus choqué.
Oui. Bah, d'abord, parce qu'il était du Nouvel Obs, moi j'ai travaillé toute ma vie au Nouvel Obs, mais c'était
Vous le connaissiez ?
Non. Non, non, il est parti. Il est parti dans les années 70 dans un journal plus à gauche encore, beaucoup plus à gauche. Albert Paul Lantin, j'ai découvert un homme exceptionnel, un journaliste exceptionnel, un homme extrêmement courageux, qui a été résistant très jeune, qui ensuite a assisté au procès de Nuremberg, qui ensuite a été, il faisait l'interface entre le FLN algérien et le pouvoir gaulliste, donc qui était extrêmement engagé. Ça, c'est la face brillante. J'ai lu de ses rapports géopolitiques qu'il remettait de manière manuscrite aux gens de la STB, ils sont brillantissimes. Puisé à la meilleure source, évidemment. Il révélait plein de choses. Et puis, il y a l'homme sombre, noir, qui était capable de... Ben, pour de l'argent, parce que les Tchèques le poussaient à donner de plus en plus, et contre des primes, il révélait les faiblesses, les fêlures dont on parlait tout à l'heure, même de ses amis. Certains, il décrit qu'ils ont besoin d'argent, et pourquoi ils ont besoin d'argent. Pour certains, il décrit leur volonté de tromper leur femme.
Leurs orientations sexuelles.
Leurs orientations sexuelles, leur participation à des parties fines de gens qu'il dit être ses amis. Et voilà, ben c'est l'espionnage, quoi. C'est à la fois du brio, c'était un homme brillant, et puis le côté est vraiment très sombre.
Qui leur donnait des surnoms comme ça, leurs pseudos là. Par exemple, Pipa, qui veut dire robinet. Jean-Clémentin, apparemment, il a bien fait son taf de ce côté-là.
Oui, je pense que c'était un hasard complet. Je ne pense pas qu'il y avait de lien. Je pense que c'est produit automatiquement, ils piquent au hasard, sinon c'est trop risqué.
D'accord, ok. Alors, Jean-Clémentin, qu'est-ce qu'il faisait? Comment il a été approché, lui?
Exactement comme Lantin, c'est des gens qui venaient quand même de la gauche, très à gauche. Ils ont tous travaillé à Libération, mais Libération des années 50, donc qui n'avait rien à voir avec les Libérations d'aujourd'hui, qui étaient compagnons de route du Parti communiste. C'est des gens qui n'étaient pas au PC, mais qui n'étaient pas loin. On peut comprendre dans les années 50, avant l'écrasement de la révolte des Hongrois, pour les plus anciens, où on a vu le vrai visage de l'Union soviétique et de ces régimes-là, ils croyaient, c'était les libérateurs. Mais ensuite, on ne peut plus comprendre quand on a connu, quand on a compris à quel régime on avait affaire. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont vraiment commencé. C'est ça qui pose question, évidemment.
Et Jean-Clémentin, il écrivait dans le Canard enchaîné au profit, finalement, des causes qu'il servait secrètement.
Oui, plus que ça, il désinformait.
C'est ça.
À un moment, les Tchèques, comme les Soviétiques, sont obsédés par le rapprochement entre la France et l'Allemagne dans les années 60. Et donc, ils lui font inventer un article, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui peut inciter à détendre cette relation. C'est une invention complète. Ils inventent un testament politique d'un ancien chancelier qui n'existe pas. Et ceci est écrit à Prague. On voit le document original écrit en tchèque, et on voit l'article, alors qui est écrit à la sauce canard, mais ce sont les mêmes informations fausses. Et ce sont les premières fake news. Ils ont inventé les fake news à ce moment-là.
Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, en tant que grand reporter, journaliste, vous avez dirigé le service étranger de l'Obs, de voir finalement que
avant,
certains...
30 ans après Lantin, oui.
Ben voilà, c'est ça. Et de savoir que vos pères, vos prédécesseurs, vos pères, étaient capables aussi de désinformer. Quand on est journaliste, c'est...
Ben, ça m'a fait vraiment très drôle, et ça m'a fait d'autant plus drôle que je pense que c'est encore pire aujourd'hui. Donc voilà, il faut faire très attention.
Ouais.
Non, ça m'a fait vraiment bizarre. J'étais très mal à l'aise. C'est journaliste de gauche, pour la plupart.
Oui, des gens que vous respectiez.
Oui, absolument, absolument. Clémentin du Canard, c'est aussi celui qui a fait le Canard d'aujourd'hui, celui qui a inventé la formule de recherche, de scoop, qui a embauché tous les grands qui sont restés jusqu'à aujourd'hui. Voilà, ce sont des figures multiples. Et lui, quand j'ai sorti cette information pour la première fois dans l'Obs il y a 2 ans, il était encore vivant. Il n'a pas démenti. Il n'a rien dit.
Et puis il y avait aussi les politiques. Les hauts fonctionnaires, proches du pouvoir, qui étaient dans le viseur des services secrets. Certains ont succombé aux sirènes, il y en a d'autres qui ont résisté aussi, voire, qui ont joué les agents doubles. Vous allez nous raconter ça dans un instant. A tout de suite.
RTL, jour J. Jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
Moi, je me mets à votre place, Vincent Jauvert. Je me suis dit que vous avez dû, pendant toute cette enquête qui vient de paraître aux éditions du Seuil, vous avez dû aller de surprise en surprise, de révélation en révélation. Ça a duré combien de temps, ce travail ?
C'est le travail d'une vie, pour tout comprendre.
Bien sûr, parce que vous êtes spécialiste du renseignement.
Et puis, c'est le travail de 6 mois, 7 mois.
D'accord, ok. Un travail passionnant, en tout cas, à la solde de Moscou. Vous avez été surpris de voir apparaître des noms d'hommes politiques ?
Pour dire la vérité, j'ai été surpris du faible nombre.
Ah !
Ils ne sont pas si nombreux pour les Tchèques, qui n'étaient pas spécialisés dans le politique. Pour le KGB, je pense que c'est autre chose. Et ça, on le saura quand Poutine sera disparu. En tout cas, il y avait ceux, notamment donc Claude Estier, dont on soupçonnait très fortement qu'ils l'avaient été. Donc Claude Estier était un grognard de Mitterrand, très proche de François Mitterrand, qui n'avait jamais été nommé ministre. On pensait que c'était à cause de ça, et probablement c'était à cause de ça. Et qui donc a été recruté par les Tchèques dans les années 50. Puis au bout d'un moment, les Tchèques se sont vus dire par le KGB, non, vous nous le laissez. Ouais. Puis le KGB l'a laissé, les Tchèques l'ont repris, puis le KGB l'a repris. Voilà.
Mais on est absolument certain de son engagement à Claude Estier.
Alors, oui, de la même façon que les autres, on a des rapports très précis, mais là encore, on voit que lorsque la vérité les dérange, les dérangeantes, ils la disent aussi, il ne veut pas être payé. Ouais. Il n'a jamais voulu être payé.
Mais pourquoi il ne voulait pas être payé ? Parce que c'était là, pour le coup, c'était vraiment la trace, finalement, de leur...
Oui, il faut signer. Il faut signer un document. Il faut signer un document. Et puis, il dit, je ne veux pas être votre esclave. Je veux pouvoir être libre. Alors, il l'était plus ou moins. Les Russes, à un moment, l'ont laissé tomber. Donc, sans doute parce que, comme les Tchèques, ils se rendaient compte qu'ils ne donnaient pas grand-chose.
Mais est-ce que c'est une vie d'espionnage, Claude Estier ? Parce qu'en fait, quand il est mort en 2016, cette même année-là, on avait retrouvé son nom dans des archives qui étaient tout juste déclassifiées.
Ouais,
la sécurité, exactement. Voilà, c'est les services secrets de Ceausescu.
Mais à la même époque...
Donc on a le sentiment qu'il y a une sorte de nomadisme, alors au profit de tous ces pays-là, mais une sorte de nomadisme finalement aussi dans son...
Ce que je vous ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a ce côté d'ego, on le flattait beaucoup, c'est très important ce que vous nous dites, vous permettez à réduire la tension entre l'Est et l'Ouest parce que vous nous racontez. Et j'avais révélé dans l'Obs, il y a un certain nombre d'années, qu'il disait la même chose aux Américains. Il était multicarte de tous les côtés, mais encore une fois, il ne touchait pas d'argent. Donc, il jouait avec le feu, pour une raison que j'aurais bien aimé avoir sa version. Malheureusement, il a nié jusqu'au bout, alors qu'il n'y a pas photo. C'est évident qu'il l'a été.
Mais qu'est-ce qu'il risquait, en 2014, à convenir de tout ça ? Qu'est-ce qu'on risque à le dire ?
Ben, vous voyez comment réagit Gérard Carrérou. Hein.
Oui, non, mais d'accord, mais Gérard Carrérou explique son honneur.
Ben, pareil.
Il a toujours. Oui, mais en fait, mais est-ce qu'on risque plus que ça d'avoir son honneur sali?
En 2016, il y avait prescription. Je pense que c'est des prescriptions de 20 ans. Donc,
risque... prescription, ouais.
Ouais, je pense qu'on. Oui, là, en matière d'espionnage, c'est à peu près tout. Il risquait rien du point de vue judiciaire.
L'image.
Juste sur l'image, qui n'est pas rien pour des hommes publics, quand même.
Alors, il y a l'image que l'on renvoie aux autres, et puis il y a l'image que l'on se renvoie à soi le matin dans son miroir. Eh bien, il y a le contre-exemple. Ce contre-exemple, c'est Patrick Ollier, maire de Rueil-Malmaison depuis 20 ans, époux de l'ancienne ministre Michèle Alliot-Marie. Alors, lui, pour le coup, il l'a joué fine. Racontez-nous.
Oui, alors moi, au début, je me suis dit, ça y est, il y a beaucoup de gens de gauche, mais j'ai quelqu'un de droite, c'est bien, ça équilibre. Eh ben non. Alors, on voit petit à petit que les gens des services tchèques, dans les rapports, disent « Oh là, lui, il nous donne plein de choses, on ne peut pas les vérifier, ça paraît bizarre, il a l'air trop facile. »
Donc il avait été approché, consentant à l'exercice.
Et en fait, il est tout de suite allé voir la DST, dès qu'il a compris.
Service secret français.
Service de contre-espionnage français. Et j'ai parlé à celui avec lequel, qui est toujours en vie, avec lequel il a eu le contact. Et tout de suite, il a joué le jeu. Il a été sonorisé, comme on dit, c'est-à-dire qu'il avait des micros sur lui. Donc, il prenait un petit risque, pas énorme, mais enfin tout de même.
Même quoi.
Et pendant plusieurs mois, il les rencontrait régulièrement, les faisait parler, il a essayé de retourner la situation. C'est là où ils ont compris, en fait. Il a essayé de faire lui, l'agent recruteur. Et à un moment, ils ont compris. Ils ont voulu arrêter, Patrick Oly a continué à les chercher et finalement la DST a expulsé l'officier qui cherchait à le recruter, qui était un, évidemment aussi un pseudo-diplomate. Et Patrick Ollier n'a pas parlé de cette chose-là pendant des années et des années. Il me dit, je ne suis même pas sûr de l'avoir dit à Michel, m'a-t-il dit, mais à Lyon-Marie. Et ce n'est qu'en 2000, enfin, 20 ans, 25 ans après, que le patron de la DST de l'époque lui a fait une lettre le remerciant et là, il lui a donné la médaille du contre-espionnage français.
Il jouait la chèvre. Il acceptait officiellement auprès de la STB de travailler avec eux et en réalité, il recueillait des informations qu'il lui-même redonnait
exactement.
Au service français. Donc,
exactement.
Il avait des allures de traître de son pays.
Exactement. Exactement.
Mais pour le coup, c'était un allié justement de la cause de sa nation.
Ah oui, bien sûr. Oui, il était tout à fait patriote, oui.
Vous restez avec nous, Vincent Jauvert. On se retrouve tout de suite, parce que c'est bien tout ça, mais on regarde dans le rétroviseur. Moi, j'aimerais savoir, et quand je vous écoute, et je vois bien vos yeux là quand je vous parle, j'aimerais savoir ce qu'il en est aujourd'hui. Est-ce que vous avez des infos? Est-ce qu'on est entouré d'espions? Est-ce qu'aujourd'hui, dans les médias aussi, il en est qui travaillent à la solde d'autres pays? Ce sera dans un instant avec vous sur RTL. Vous voyez, ça passe vite, hein, Vincent Jauvert. Parce que vous êtes en train de dire, ah, c'est déjà. Ouais. Ça passe vite, mais c'est passionnant.
Avec grand plaisir.
Tout aussi passionnant que votre ouvrage aux éditions du Seuil. Merci d'être avec nous, Vincent Jauvert. Ce que vous racontez là, dans ce livre, ça existe toujours. Est-ce qu'on peut imaginer par exemple qu'un ouvrage va sortir dans 40 ans pour dénoncer les espions d'aujourd'hui?
J'espère avant.
Ouais.
J'espère avant. Oui, bien sûr, évidemment, et plus que jamais. On est en guerre. On est quasiment en guerre avec la Russie, avec la Chine. Donc, bien sûr que ces pays-là, et nous de notre côté, ben, ces pays-là ont des agents en France. J'ai révélé, par exemple, au Nouvel Obs que la Chine avait tout un système d'écoute, enfin, d'écoute de téléphone satellitaire près de Paris, par exemple. J'ai révélé aussi que vous vous souvenez de cette affaire des espions illégaux russes aux États-Unis avec la belle Anna Chapman?
Oui, tout à fait, bien sûr.
Bon, et ben, une source m'avait raconté qu'il y avait d'autres, au même moment, il y avait des illégaux en France, russes, qui étaient une sorte de recours pour ces 10 Américains-là. Donc il y a des illégaux russes en France aujourd'hui. Par exemple, ceux qui sont allés chercher à tuer un agent qui s'appelait Skripal en Grande-Bretagne.
Qu'on a évoqué, dont on a raconté justement l'histoire précédemment dans une émission qu'on peut retrouver en replay.
Ils sont passés par la France. Ils vivaient en France. Donc bien sûr, plus que jamais. Je suis sûr, plus que jamais, parce que les frontières sont beaucoup plus poreuses qu'avant. Donc, et souvent d'ailleurs, ils viennent avec leur vrai nom. C'est moins risqué de venir avec son vrai nom qu'avec une fausse identité, parce que ça fait sonner à la frontière. Quand c'est une fausse identité, vaut mieux venir avec sa propre identité, ça passe tout seul.
Là, vous nous parlez des illégaux. Est-ce que il y a, dans les médias, dans les milieux politiques aussi, selon vous, des personnes qui ont été recrutées par
S'il y a des officiers traitants qui soient illégaux ou pas illégaux, c'est qu'il y a des gens qui sont recrutés. Ça, c'est sûr. Ils viennent pas pour rien. Moi, j'avais raconté dans l'Obs comment ils avaient cherché à me recruter, mais comme beaucoup de mes confrères.
Et vous les avez vus arriver, vous?
Assez vite,
vous êtes un spécialiste en plus.
Assez vite, et puis la DST me l'a dit. Et puis la DST un jour m'a dit, tu sais que celui-là, il est... Et il a disparu du jour au lendemain.
La DST, elle les a tous identifiés?
Non, d'abord on ne sait pas. Et puis, ils ont sûrement, je ne sais pas, mais ils ont des listes de diplomates qui semblent avoir... Ça, ils font le tour. Les pays d'Europe, on les voit réapparaître, souvent dans les missions de presse, mais pas que. Puis ça peut être, comme on le sait, le jardinier qui est le chef. Le soi-disant jardinier, ça peut être le chef. Ça peut être le chef de la Residentur, là, comme on dit. Et puis, il y a les illégaux, il y a tous ceux qui vont et qui viennent. Parce que c'est facile aujourd'hui d'aller de Moscou à Paris. Alors bon, il faut passer par la Turquie. Mais enfin bon, c'est rapide.
Le monde, il a changé, évidemment, depuis ces années que vous décrivez dans votre livre. Est-ce que le visage de l'espionnage et du contre-espionnage a beaucoup évolué aussi?
Je pense pas. Je pense que la base est strictement la même. Ouais. Comment recruter quelqu'un, c'est toujours de la même façon. C'est toujours autour d'un verre, autour d'une bonne chair, et toujours en train d'essayer de cerner une personnalité, de trouver sa faille et finalement de lui donner de l'argent quant aux informations secrètes.
D'accord.
C'est toujours la même façon. Alors après, il y a les techniques, il y a la technique, la technologie qui a beaucoup apporté. On l'a vu avec l'histoire allemande où des généraux allemands parlent entre eux et puis hop, leurs communications sont interceptées. Les Russes, comme les Américains, comme les Français, dépensent des fortunes en renseignement radioélectrique. Donc ça change un peu la donne. Mais au final, les Américains ont dit, au moment où Poutine va intervenir en Ukraine, tout le monde a la même information. Tout le monde voit qu'il a mis en place son armée. Et les Américains sont les seuls à dire « Nous, on sait qui va le faire ». J'en ai pas la preuve, mais je suis à peu près certain que c'est parce qu'ils ont une source humaine qui leur dit « Moi, je sais, je suis tout très proche de Poutine et je sais que ». Et comment a été recrutée cette personne ? Toujours de la même façon.
Merci infiniment, Vincent Jauvert, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, je conseille même votre livre « À la solde de Moscou » aux éditions du Seuil. Merci à tous mes espions, à moi, l'équipe donc de Jour J, Céline Bonnet, Quentin Azoulin, Bastien Robin et Marc Bisset. S'ils cherchent à vous recruter, méfiez-vous. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Jour J. Je vous souhaite une très bonne soirée sur RTL. Merci pour votre fidélité.